L'être humain, réduit à sa condition de viande, à son archaïque état d'animal, était-ce ce que le monstre avait laissé comme message? Tout cet ensemble faisait écho à l'animalité, à l'homme et à la bête, dans une valse d'horreur qui mélangeait ces identités, qui malmenait leurs définitions, qui brouillait les pistes entre le réel et le fantasme, entre la raison et la folie. L'homme papillon, Maud Elitaire.
Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3.
Le pire, c'était la voix dans ma tête. C'était
quelque chose
parce que
je dois faire.
Parce qu'elle, elle vous parle. Vous les entendez vous parler.
Il faut que je me rappelle son visage.
C'est indescriptible. Je ne peux pas avoir dans mon esprit.
Je suis terrifié à l'idée d'aller dormir.
Ce que je vois, c'est une chouette.
Il y a au moins 50 ou 100 personnes qui ont pu le voir.
Pourquoi ils sont restés loin?
J'ai peur de sortir marcher dehors. Il faut de l'aide. Je sais pas comment m'en sortir. C'est tellement étrange.
Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Nuit Blanche, le podcast. Pour les âmes sensibles, il est encore temps de fuir. Pour les autres, le moment est venu de frémir. Depuis la nuit des temps, nos cultures, nos religions, nos mythes et légendes sont peuplées d'histoires de chimères, de monstres fantastiques, de créatures thérianthropes, mi-hommes, mi-animal, de cryptides qui fascinent autant qu'ils terrorisent. La frontière qui sépare l'humanité de tout ce bestiaire extraordinaire est aussi celle qui sépare l'imaginaire de la réalité, car ces manifestations ne sont pas censées exister dans notre matérialité. Jusqu'au jour où deux grands yeux rouges, ronds et brillants, vous observent dans l'obscurité. Jusqu'à ce que se détache une forme humanoïde, immense et grise, avec des ailes repliées. Cette chose, on l'appelle le Mothman, ou bien encore l'homme phalène, en référence au papillon de nuit. Croiser son regard ou sa silhouette n'est pas un bon présage, car chacune de ces apparitions annonce, telle une malédiction, une catastrophe à venir. Et il y en aura bien une, le 15 décembre 1967, à 17h05, très exactement, dans la petite ville de Point Pleasant, où l'on peut depuis 2003 braver le regard perfide et pourpre d'une immense statue argentée du Mothman. Figure immobile mais effrayante, avec ses griffes acérées et ses dents pointues, la création métallique nous rappelle les nombreuses apparitions de l'homme phalène il y a plus de 50 ans dans la région. C'est cette histoire, ou plutôt une intrication de récits et témoignages vraiment bizarres, mêlant monstres ailés, poltergeists, men in black et objets volants non identifiés, que nous allons vous raconter. À la réalisation, Valère Veilla.
Vous savez que j'ai passé une nuit blanche à cause de vous.
Au micro, Michael Marquet.
Vous savez ce que c'est ? Ne vous mêlez pas de ça. Écoutez, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Dites-le-moi. Où est-ce qu'on l'a vu ?
À Point Pleasant, en Virginie Occidentale.
Suivez-moi.
Bienvenue à Point Pleasant. Point Pleasant se trouve en Virginie Occidentale, à la frontière avec l'État de l'Ohio. Cette petite ville pittoresque de 4000 habitants rappelle celle de la série Twin Peaks en plus petit. Point Pleasant est au confluent des rivières Kanawha et Ohio. Les Indiens appelaient cet endroit Tuhandihuai, qui est un terme du peuple Shawnee signifiant le mélange des eaux. En 1770, George Washington fait un voyage dans la vallée. La tradition veut que ce soit le président qui ait nommé l'endroit Point Pleasant, car il trouvait le lieu agréable. Les Indiens aussi trouvaient l'endroit agréable. C'était le territoire des Shawnees et de leur chef Cornstalk, avant qu'ils ne soient chassés par les colons blancs et l'armée britannique. Les deux clans se sont livrés de nombreuses batailles sanglantes dans la région, surtout en 1774, entraînant la mort de plus de 300 Amérindiens. En 1777, Cornstalk et son peuple font la paix avec les Blancs. Mais pour éviter tout nouveau conflit et soulèvement des Amérindiens, le chef est gardé en otage au Fort Randolph, occupé par la milice américaine et le capitaine Arbuckle. Le 9 novembre, le fils de Cornstalk, Eleni Psycho, est autorisé à lui rendre visite. Mais c'est un piège. Lui aussi est fait prisonnier. Le 10 novembre, des coups de feu retentissent près de la rivière Kanawha. Deux soldats, Gilmore et Hamilton, qui chassent le cerf, sont attaqués par les membres d'une tribu qui n'est pas de la nation Shawnee. Hamilton parvient de justesse à s'échapper. Gilmore est tué et scalpé. Lorsque le corps sans vie et ensanglanté de Gilmore arrive au fort, les soldats furieux décident, en guise de représailles, de sacrifier des prisonniers. Ils font irruption dans la chambre d'Eleni Psycho et il est tué d'un coup de fusil. Puis c'est au tour de Cornstalk de payer pour ce qui vient de se passer. L'Amérindien sait qu'il ne lui reste plus que quelques secondes à vivre. Avant que son corps soit traversé par une dizaine de balles, ses derniers mots sont « La malédiction du grand esprit tombera sur tout le pays ». À partir de ce 10 novembre 1777, Point Pleasant ne l'était plus vraiment. C'était en fait devenu un endroit maudit.
C'est le chemin que vous avez choisi de prendre, que vous le sachiez ou non. Vous devez assumer la pleine responsabilité.
Quelques ossements et trois dents de Cornstalk reposent aujourd'hui dans un petit obélisque situé dans le parc d'État de Toohendy High, dans la ville de Point Pleasant. Le 4 juillet 1941, un éclair a frappé le monument. Les gens se demandèrent si c'était en lien avec la malédiction du chef indien.
Rien ne meurt jamais. Comme la chenille se métamorphose en papillon, la mort n'est pour nous qu'un simple passage vers une autre forme d'existence.
À la fin des années 60, Point Pleasant est une ville prospère, propre et très calme d'environ 6000 habitants. La plupart des citoyens travaillent à des postes clés dans les entreprises de la région. C'est une zone industrielle assez active et le fleuve Ohio est bordé d'usines chimiques et de mines de charbon à ciel ouvert. Il y a un hôtel, 22 églises, quelques restaurants, mais aucun bar. À l'ouest, un pont, le Silver Bridge, qui relie la cité fondée en 1794 à celle de Galliopolis, qui se trouve dans l'Ohio. À environ 8 km au nord de la ville de Point Pleasant, il y a de nos jours un endroit un peu particulier, la McClintic Wildlife Station, une réserve animalière de 2500 hectares. C'est un havre de paix pour les animaux de la vallée. Mais avant d'être une zone naturalisée de terres boisées et humides, abritant entre autres des castors et des cervidés, cet emplacement sauvage était pendant la Seconde Guerre mondiale une zone secrète où l'on fabriquait des munitions et des bombes. À son apogée, l'usine produisait 230 000 kilos de TNT par jour. On a creusé, à l'abri des regards indiscrets, des kilomètres de galeries pour relier entre eux les ateliers de fabrication d'explosifs. Ils étaient ensuite stockés dans des dômes de béton en forme de tumulus recouverts de végétation, si bien qu'il était impossible de les distinguer vu du ciel. Ces tumuli, près d'une centaine, se trouvait non loin d'une énorme centrale électrique de 45 millions de dollars qui employait jusqu'à 3500 personnes au début des années 40. Après la guerre, la plupart des explosifs furent retirés et les fabriques démantelées. Les entrées et sorties des tunnels furent bouchées et certains igloos cédés au comté de Mason pour servir de lieu de stockage. À la fin des années 60, ce qu'on appelle à l'époque la zone TNT est une aire sinistrée et polluée. La centrale électrique hors service est rongée par la rouille et dans un état de délabrement avancé. La nature a repris ses droits et les nombreux monticules abandonnés sont un terrain propice d'exploration pour les adolescents de la région. On s'y retrouve pour faire du vélo, du tir à l'arc, boire, fumer, entre amoureux, mais aussi pour se faire peur. Car ce lieu post-apocalyptique, fait de forêts, de ruines et de marécages, est le décor idéal pour se raconter des histoires effrayantes à la nuit tombée. L'endroit est, paraît-il, hanté, car pour construire dès mars 1942 ce vaste labyrinthe militaro-industriel, il a fallu que le gouvernement achète de nombreux terrains aux propriétaires locaux. Or, sur ces terrains, se trouvaient de très nombreuses sépultures, oubliées de toutes et de tous, et recouvertes d'herbes folles. Pendant plusieurs semaines, à la hâte, des cercueils, des restes humains sont déplacés dans les cimetières voisins. Il s'agit de dépouilles appartenant aux familles des paysans. Mais il y a aussi ici des restes plus anciens. Ce sont les plus fragiles et les moins identifiables, que les pelleteuses d'ailleurs, mécaniques, vont broyer, puis disperser dans la campagne. Grave erreur, car jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, se dressaient dans la vallée de grands tertres funéraires contenant les restes des ancêtres des Shawnees. Déranger les morts, déplacer des corps, profaner des cimetières amérindiens, il n'en fallait pas plus pour faire revivre la malédiction du chef indien Cornstalk, qui avait maudit ses terres avant d'être lâchement assassiné par des soldats américains.
On a tout le terrain. On a déjà pris les accords pour déplacer le cimetière.
Enfin, voyons, c'est un sacré neige, non ?
Bon, il ne faut pas vous inquiéter pour ça, après tout. Ce n'est pas un lieu sacré pour momies indiennes, c'est juste des bons hommes. Et puis, de toute façon, on l'a déjà fait avant.
Augustin Verdet ?
Oui, sur 150 hectares. Laissez-moi vous dire que c'était une belle affaire.
J'ai jamais entendu parler de ça.
C'est pas le genre de choses qu'on va mettre sur les affiches publicitaires ou à l'arrière des bus. Qu'est-ce qui vous inquiète, mon vieux ? Les parents ou les amis vont voir leur cher disparu au Broxton Memorial Park. Ce n'est qu'à 5 minutes plus loin, prompt et divine.
Ah oui, 5 minutes au fond, c'est vrai que c'est pas la mer à boire tout de même.
Novembre 1966. Il est minuit. Deux jeunes couples de Point Pleasant, Roger Scarberry et sa femme Linda, ainsi que Steve Mallette et son épouse, Marie, traversent la zone TNT dans la Chevrolet 1957 de Roger, qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Les petites rues sinueuses sont désertes et les quelques maisons dispersées entre les dômes de béton sont éteintes et silencieuses. C'est en passant sur une route secondaire près de la centrale électrique abandonnée que, tout à coup, Steve remarque sur sa droite une étrange lueur. Linda aussi épousse un cri de terreur. Marie, assise sur la banquette arrière, lance à son mari.
C'était quoi ?
J'en sais rien.
Roger freine brusquement et observe, tout comme les passagers, deux cercles rouges et brillants qui se détachent des ténèbres. Ils font environ 5 cm de diamètre. Le moteur de la Chevrolet tourne toujours, mais la voiture est à l'arrêt. Les quatre amis sont comme hypnotisés par cette apparition nocturne. Petit à petit, alors que l'œil s'habitue à l'obscurité, les cercles rouges se métamorphosent en yeux globuleux. Ils sont reliés à une énorme créature d'environ 2,50 m.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ?
Roger racontera un peu plus tard au journal local. La chose était de couleur grise et marchait sur de puissantes jambes comme celles d'un humain. Tout en silence, l'apparition se tourne lentement vers une porte de l'ancienne centrale électrique. Steve insiste pour que Roger mette la gomme afin de quitter au plus vite la zone TNT. Le conducteur s'exécute et fait crisser les pneus de sa voiture. Le son strident de la gomme se répercute contre la vieille façade en tôle de l'usine. Après un demi-tour négocié à la hâte, la Chevrolet se dirige vers la route 62.
Dépêche-toi ! Je t'en prie, dépêche-toi ! Putain !
Quand tout à coup, ils aperçoivent le monstre debout au sommet d'un tumulus.
Mais t'as vu la taille de ce machin ?
La bête déploie lentement d'immenses ailes qui étaient dans son dos et s'élèvent dans les airs. La voiture fait à présent du 60 km/h, mais elle est poursuivie par le monstre aux yeux rouges et aux ailes de chauve-souris. Marie Mallette se souvient très bien qu'il faisait du bruit, comme le couinement d'une souris. La prise en chasse se poursuit à présent en dehors de la zone TNT. La Chevrolet est poussée dans ses derniers retranchements et file à présent à plus de 120 km/h. Mais le monstre volant est toujours présent. Il glisse dans les airs, d'avant en arrière, et ne semble pas vouloir lâcher sa proie. C'est seulement aux premières lueurs de la ville de Point Pleasant que la créature disparaît dans un nouveau battement d'ailes en frôlant la voiture. C'est paniqué, traumatisé et avec une vision cauchemardesque à tout jamais imprimée dans leur mémoire que les jeunes gens arrivent en centre-ville. Ils se sentent enfin en sécurité. L'éclairage public permet à Steve de découvrir le visage plein de larmes de Linda et le faciès déformé par la peur de Marie.
Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Qu'est-ce qui a pu se passer ?
Ça, je ne sais pas. Mais tu as raison, il nous est bien arrivé quelque chose. Nous avons vu un truc très bizarre.
On va dire ce qu'on a vu.
Voyons, que diraient les gens ? Ils diraient qu'on est cinglés. Personne ne nous prendrait au sérieux, tu le sais, et on passerait pour des imbéciles.
Même si on nous prend pour des cinglés.
Après plusieurs minutes de discussion électrique, les quatre amis décident de se rendre au poste de police de Mason. Cette nuit-là, c'est l'adjoint Millard Halstead qui est de service. Et c'est avec le souffle court que les jeunes racontent, avec un peu de confusion et sous le coup de l'émotion, ce qui vient de se passer, ce qu'ils ont vu à la zone TNT.
Il n'y avait qu'environ 30 cm entre sa tête et cette branche. Ça fait qu'il devait mesurer, je ne sais pas, 2,50 m. Au début, tout ce que je pouvais voir, c'était ses deux yeux rouges. Et je suis restée comme ça à le regarder. Sans pouvoir m'empêcher. Je n'avais encore jamais eu cette impression-là, comme si je ne pouvais plus bouger. Puis je suppose qu'il s'est tout simplement envolé.
Aujourd'hui, cette déposition au poste de police, datée du mardi 15 novembre 1966, est encore visible à Point Pleasant, dans un musée dédié à la bête aux yeux rouges. L'adjoint Millard écoute le récit. Il est perplexe, mais il connaît bien les jeunes gens qui ne sont pas des affabulateurs. Et puis surtout, la terreur se lit encore sur leur visage et dans leurs gestes désordonnés. Millard, pour tirer cette affaire au clair, propose de faire sans plus tarder une expédition près de la centrale électrique. Le policier monte à bord de sa voiture de fonction, qui est escortée par celle de Roger. La chasse peut donc débuter. Roger remarque une chose étrange sur le trajet. Lorsqu'ils ont quitté à toute allure la zone TNT, il a dû éviter, en donnant un coup de volant, un chien mort gisant sur le bas-côté. Mais Millard ne peut que constater qu'à l'endroit indiqué par Roger, le cadavre a mystérieusement disparu. Plus loin, le policier braque un puissant projecteur sur la zone d'observation près de la centrale électrique, mais ne trouve rien de particulier. C'est tard dans la nuit que Millard et Roger rentrent bredouille. Les quatre amis passeront le reste de la nuit ensemble dans la caravane du couple Scarberry, sans pouvoir dormir et en prenant soin de laisser toutes les lumières allumées. Parce qu'on ne sait jamais. Pendant les semaines suivantes, Roger et Linda seront assaillis par d'étranges sons nocturnes, des bips, des bruits déformés, comme un disque passé à trop grande vitesse. Chose étrange, ces sons ne semblent pas venir de l'extérieur ni de l'intérieur de la caravane. Il est impossible tout simplement de les localiser. C'en est trop pour le jeune couple qui abandonne leur maison sur roue pour s'installer définitivement dans la villa des parents de Linda.
Je suis ravi de vous voir. On y va tout de suite ou on attend encore un peu?
On y va tout de suite. Comment ça se présente?
200 personnes sont déjà présentes, les officiels, la presse, tout le monde est déjà arrivé.
D'accord, on y va.
Dès le mercredi 16 novembre au matin, le shérif George Johnson improvise une petite conférence de presse. La rumeur a déjà fait le tour de la ville et quelques journalistes sont au rendez-vous pressés d'interviewer les quatre témoins qui ont rencontré dans la zone TNT une créature humanoïde aux yeux rouges et aux ailes géantes.
La ville se fait une sale réputation.
Moi, j'ai des enfants qui n'osent plus sortir à cause de toutes ces histoires. Sans parler de ces photographes étrangers qui arrivent de tout le pays. Ça ne peut plus durer, chérie.
Moi aussi, j'ai peur pour mes enfants.
Oui, madame, je comprends très bien votre inquiétude et j'aimerais pouvoir y remédier. Je pense que personne ne se sent plus concerné que moi. Je travaille 24 heures sur 24 sur cette affaire. Je veux que cette ville retrouve son calme habituel.
Parmi les journalistes présents ce jour-là, il y a Mary Heyer. Mary a 51 ans. Elle travaille pour le journal local The Athens Messenger. Elle a son propre bureau à Point Pleasant, sur la 6e rue. Et voilà un récit, se dit-elle, qui, dans cette petite ville sans histoire, va faire grand bruit. Sûre de son scoop, elle envoie quelques lignes sur cette étrange rencontre nocturne, le jour même, à l'Associated Press.
La bombe est lâchée, on dirait.
De quelle bombe tu parles, Tom ?
Oh, j'en sais trop rien. Ce que je peux te dire, c'est qu'on reçoit même des appels de Tombouctou. Et que demain, j'aurai pas une minute à moi.
Qui téléphone?
Oh, des journalistes, des guides touristiques, des mordus de science-fiction, etc.
24 heures après les faits, les mallettes, les Scarberry et la grande chauve-souris sont au centre de toutes les discussions. La créature possède une silhouette terrifiante, mais pas encore de nom. C'est dans un article rédigé le 17 novembre 1966 dans le Herald Dispatch de Huntington que l'on va pour la première fois baptiser cette chose le Mothman. Mothman est un mot valise formé par l'association du mot man pour homme et moss pour mythe ou bien encore papillon de nuit. Parfois, on l'appelle aussi le Garuda. Le Garuda est un homme-oiseau de la mythologie hindouiste et bouddhiste. Il est le symbole de la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator. Dans les pays francophones, le Mothman sera très vite nommé l'homme papillon ou bien encore l'homme phalène. Un phalène est un grand papillon nocturne ou crépusculaire, aux ailes délicates et à l'abdomen mince.
Le papillon de nuit. Dans les civilisations antiques, le papillon de nuit représente une forme d'une psyché ou d'une âme éternellement enfermée dans les royaumes infernaux de la mort.
Le Mothman, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas subitement né une nuit du 15 novembre 1966 à Point Pleasant. Il a déjà été aperçu par le passé dans d'autres endroits du pays. D'après les archives, sa première apparition remonterait au mois de septembre 1880. Un certain W. H. Smith fut le premier à relater son apparition dans le New York Sun. Il évoque une forme humaine, ailée, qui faisait des acrobaties aériennes au-dessus des baigneurs de Coney Island. Il était environ à 300 mètres au-dessus de la foule, vêtu de noir, et son expression était cruelle et déterminée. Jusqu'à ce jour d'ailleurs, cette observation reste inexpliquée. Par la suite, on aperçoit une créature semblable un peu partout sur la planète. Par exemple, le 11 juillet 1908, près du fleuve Gobiï, l'explorateur russe Vladimir Arseneyev en sera le témoin privilégié. Voici ce qu'il raconte. J'entendis un battement d'ailes. Quelque chose de grand et de noir émergea du brouillard et s'envola au-dessus de la rivière. Un instant plus tard, cette chose avait disparu dans la brume épaisse. Mon chien, complètement terrorisé, se blottit à mes pieds. Après le souper, je parlai de cet incident aux hommes de la tribu Oudéhé. Ils se lancèrent dans un récit très animé à propos d'un homme qui pouvait voler dans les airs. Au début de janvier 1948, c'est Madame Zaikovsky qui déclare à la presse avoir vu un homme avec des ailes argentées à 100 mètres au-dessus de sa grange dans l'état de Washington. Mais son témoignage ne sera pas pris au sérieux par les autorités. Texas, 18 juin 1953. Vers 2h30 du matin, Trois personnes, dont Madame Hilda Walker, 23 ans, aperçoivent à Houston une figure humaine avec des ailes identiques à celles d'une chauve-souris. L'apparition est vêtue de noir et entourée d'une lueur étrange. Elle fait 2 mètres de hauteur. « Je suis peut-être cinglé, mais je l'ai vu », déclare Howard Phillips, un autre témoin dans le journal The Houston Chronicle. Il faudra attendre la fin de l'année 1966 pour que les officiels et des journalistes tentent de percer le mystère du Mothman. Et parmi ces journalistes, bravant la peur, et surtout la peur du ridicule, il y a un certain John Alvakil. John Keel, né le 25 mars 1930 à Hornell, dans l'État de New York, est un spécialiste en ufologie et l'inventeur de l'expression « Men in Black ». En 1966, John habite à Washington, D.C. et il ne connaît encore rien de l'histoire du Mothman de Point Pleasant. Un jour, du mois de décembre, il reçoit un coup de fil de son ami Gray Barker, écrivain américain, surtout connu pour ses livres sur les ovnis et autres événements paranormaux. Gray lui explique qu'un vent de panique souffle sur la Virginie occidentale, où la population locale a, à plusieurs reprises, aperçu un oiseau aux yeux rouges, grand comme des phares et avec des ailes de 3 mètres d'envergure. Gray Barker, malgré le côté invraisemblable de son histoire, arrive à convaincre John de faire le déplacement à plus de 1200 km de chez lui. Le journaliste fait sa valise, prend sa voiture et met le cap sur la Virginie occidentale.
Je suis toujours ici.
En Virginie occidentale ?
Oui, oui. Il s'est passé quelque chose.
Tu rigoles ? Quelque chose d'intérêt national en Virginie occidentale ?
Non, d'intérêt scientifique. Je te raconterai plus tard.
C'est le 7 décembre 1966 qu'il découvre pour la première fois Point Pleasant. En arrivant sur place, dans la jolie petite ville pleine de décorations de Noël, il décide de faire une première halte au poste de police du comté de Mason pour bavarder quelques minutes du Mothman avec un certain Millard Hallstatt.
Je viens de Washington. Je m'appelle John.
Washington Post ?
Oui.
L'adjoint du shérif lui certifie que les jeunes gens étaient véritablement terrifiés, que ce n'était pas un canular.
Depuis quelques mois, les habitants passent régulièrement me voir pour me dire qu'ils ont vu de drôles de choses. Et je ne parle pas de type camé aux amphétamines, je parle d'honnêtes chrétiens parfaitement normaux. J'ai connu ces gens toute ma vie et je vous assure qu'ils sont très embarrassés de venir en parler.
John apprend aussi que, quelques jours avant cette soirée cauchemardesque, le 12 novembre 1966, près de la petite ville de Clendenin, dans le comté de Kanawha, en Virginie occidentale, Kenneth Duncan, fossoyeur, creusait une tombe pour son beau-père qui venait de décéder, en compagnie de 4 autres ouvriers, Robert Lovejoy, William Poole, Andrew Goodby et Emil Gibson. Tout à coup, ils ont aperçu quelque chose au bout du cimetière municipal, quelque chose qui ressemblait à un grand oiseau, d'une couleur très sombre. L'apparition a décollé des arbres voisins et a volé au-dessus de leur tête. Aussi étrange que cela puisse paraître, on aurait dit un homme avec des ailes. Après avoir posé ses valises au Blue Fountain, un motel de briques rouges situé sur la route 7 à la périphérie de Gallipolis, qui se trouve de l'autre côté du fleuve Ohio, John Keel décide de compulser tous les articles des journaux locaux qui évoquent l'affaire du Mothman. Et ils sont nombreux, trop pour que cela soit un simple canular. Le 25 novembre, à 7h45 du matin, un jeune homme représentant en chaussures du nom de Thomas Ury roule sur la route 62, juste au nord de la zone TNT. Quand soudain, il aperçoit une grande forme humaine, grise, debout, dans un champ qui longe la route. Brusquement, l'apparition déploie une paire d'ailes et décolle tout droit comme un hélicoptère. La créature se met ensuite à dessiner des cercles au-dessus de la voiture de Thomas, qui accélère. Une fois de plus, le monstre s'évapore lorsque le jeune homme paniqué entre dans Point Pleasant pour se réfugier dans le bureau du shérif. Il lui raconte qu'il n'avait jamais ressenti une peur aussi intense par le passé.
Du calme, le chien. Mais qu'est-ce qu'il prend ?
La même semaine, George Wolfe Jr., 33 ans, un citoyen de Beaver Falls, en Pennsylvanie, aperçoit pendant une partie de chasse dans la forêt un grand oiseau qui zigzague entre les troncs d'arbres. Il est de couleur grise et fait bien 2,50 m de hauteur. George, dans son témoignage, raconte « Mon chien Ringo l'a pris en chasse. Quand j'ai cru qu'il l'attrapait, je l'ai entendu hurler à la mort. » Quelques secondes plus tard, il est revenu vers moi, la queue entre les jambes, en émettant de petits gémissements plaintifs.
« Viens ici, bonhomme. »
»18 novembre 1966. Deux pompiers volontaires de Point Pleasant, Paul Yoder et Benjamin Enox, font un pique-nique dans la fameuse zone TNT. Lorsqu'ils aperçoivent un immense oiseau passer au-dessus d'eux.
C'est indescriptible, je n'arrive pas à voir dans mon esprit. Je ne contrôle rien. Tout ce que je vois, c'est la chouette, mais je sais que ce n'est pas une chouette.
Selon un professeur spécialiste de la faune de l'Université de Virginie-Occidentale, il s'agit sûrement d'un oiseau migrateur connu sous le nom de grue et qui a la particularité de posséder une bande rouge au niveau du front qui entoure les yeux. Mais cette description ne ressemble absolument pas à ce qu'ont croisé cinq adolescents qui roulaient le long de Campbell Creek dans la nuit du 20 novembre 1966. Ils eurent le choc de leur vie lorsque jaillit dans la lumière des phares une créature ailée de taille humaine qui se tenait derrière un amas de rochers. Et la liste des apparitions du Mothman est encore longue, très longue. On estime, d'après les témoignages parvenus jusqu'à nous, que plus d'une centaine d'adultes ont aperçu cette impossibilité ailée. Ceux et celles qui l'ont vu de près s'accordent sur le fait que c'était gris, sans plumage, plus grand qu'un homme, que le monstre, avec les ailes déployées, avait une envergure d'au moins 3 mètres et qu'il pouvait décoller à la verticale, comme un hélicoptère. Quant à sa tête, à part deux grands yeux rouges, c'était une énigme quasi indescriptible. C'est donc, dans une région sous tension et avec une population passablement éprouvée par de nombreux phénomènes inexpliqués, que l'écrivain John Keel débute son enquête. Son choix se porte d'abord sur la maison des McDaniel, dont la position lui avait été indiquée quelques heures plus tôt par l'adjoint du shérif. C'est tout un petit comité inquiet qui attend sur place le journaliste. Pour l'occasion, Mabel McDaniel avait rempli sa petite maison de tout un tas de connaissances. Il y a le couple Mallette, le couple Scarberry, mais aussi la journaliste Mary Heyer du Athens Messenger, ainsi que Connie Carpenter et son fiancé Kiss. Connie Carpenter est une jeune fille timide et studieuse de 18 ans originaire de New Haven. C'est la nièce de la journaliste Mary Heyer et elle travaille au 3004 Jackson Avenue à Point Pleasant, l'adresse du Tiny's Diner, un petit restaurant de la ville. Elle aussi a croisé le chemin du Mothman et elle raconte à John Keel son histoire. C'était le dimanche 26 novembre sur la route 62, entre l'église et sa maison. Il était environ 10h30. Connie remarque au milieu du terrain de golf désert du comté de Mason un homme en gris qui se tient debout. Il a d'immenses yeux rouges luisants qui la fixent, qui l'hypnotisent. Elle dit à John, « À partir de ce moment précis, je n'arrivais plus à quitter son regard et c'est un miracle que je n'ai pas eu d'accident de voiture. » Tout à coup, la créature a volé directement au-dessus de la voiture, puis a viré sur le côté pour disparaître. Terrifié, j'ai alors accéléré pour arriver le plus vite possible chez moi. J'ai couru jusqu'à la porte et je me suis enfermé dans ma chambre. Ses yeux, c'était comme de la science-fiction. C'était impressionnant. Connie est tellement bouleversée par cette rencontre qu'elle n'ira plus pendant quelques jours à l'école. Et cette absence n'est pas due seulement au choc psychologique. John remarque, tout en écoutant attentivement son récit, qu'elle a des yeux rouges et enflés. La jeune femme souffre d'un étrange mal qui affecte certains témoins ayant fixé le regard du monstre. Il s'agit d'une conjonctivite actinique. Les symptômes sont une rougeur et un gonflement des yeux. La cause de cette inflammation est une surexposition à la lumière Klieg, qui est une intense lampe à arc de carbone qu'on utilisait à l'époque dans le cinéma. Ou alors à des torches à acétylène, d'où l'autre nom de conjonctivite du soudeur. Mais pour la première fois, on découvre que le regard luisant d'un homme phalène peut provoquer les mêmes indispositions.
C'est quelque chose que je dois faire. Il faut que je me rappelle son visage. C'est essentiel pour que je puisse guérir. Il faut que j'essaie. Il faut que je sache. Pour mes enfants, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me rappeler.
Depuis cette fameuse nuit, Ashley ne voit plus. Et je crois qu'elle ne réussira pas à voir tant qu'elle n'acceptera pas ce qui s'est passé.
Après avoir consigné chaque témoignage, John propose qu'on l'accompagne sur la zone TNT. Il est déjà 21h lorsque quelques phares de voiture éclairent les anciens dépôts de munitions.
D'après les témoignages, c'est ici que ça se passe.
L'endroit est calme, mais lugubre. Le journaliste, avec une lampe torche à la main, se dirige vers la centrale électrique. Ou plutôt ce qu'il en reste. Un bâtiment devenu le refuge de la faune locale et qui semble bien fragile sur ses frêles jambes d'acier. C'est l'endroit idéal pour débuter l'exploration.
Allez-y, vous êtes chez vous. Lancez-vous.
La petite expédition passe devant une première porte cadenassée par la police. Mia arrive à s'infiltrer dans la vieille carcasse rouillée par une ouverture dans un mur. La nervosité est palpable parmi les membres de la troupe. Certains restent pétrifiés devant le bâtiment abandonné. Seul Connie et son petit ami Kiss se portent volontaires pour pénétrer dans ce qu'on l'on appelle déjà dans la presse locale « the bird cage », la cage de l'oiseau. Car c'est ici que le Mothman aurait élu domicile. L'unique faisceau lumineux parcourt d'anciennes chaudières éventrées. On entend un mince filet d'eau couler. Tout est calme. Étrangement calme, car même les animaux semblent avoir déserté les lieux. Le trio s'enfonce toujours un peu plus dans la centrale.
T'as déjà vu ce genre de choses ?
Ça a été construit au début du siècle. C'est désaffecté depuis des décennies.
Au moment de franchir une porte donnant sur une petite salle, Connie pousse un cri d'effroi dont la sonorité stridente semble se répercuter à l'infini contre les parois de l'immense vaisseau fantôme, d'acier et de béton. Devenue hystérique et incontrôlable, elle s'écrie « les yeux » en pointant du doigt l'obscurité. Les deux hommes saisissent la jeune femme par le bras pour la sortir de la bâtisse. Tout en respirant rapidement par la bouche, dont les commissures sont humidifiées par des larmes, Connie crie. J'ai vu ses yeux, ses deux gros yeux rouges. Ils étaient là, contre ce mur. Son état de panique glace le sang de ses auditeurs. Kiss la prend dans ses bras, les jambes vacillantes, Connie s'assoit.
Qu'est-ce que tu veux ?
Pendant qu'elle reprend ses esprits, John retourne avec sa lampe torche à l'endroit indiqué par la jeune femme. Mais il ne trouve rien. Le mur du fond derrière les chaudières est lisse et totalement vide. En ressortant du bâtiment, John remarque que le policier Alva Sullivan a rejoint le groupe. Comme bon nombre de locaux, il est très réticent à l'idée de pénétrer, dans l'antre de l'homme-oiseau. Kiss raccompagne Connie, toujours en larmes, à leur voiture. Entre deux spasmes, elle implore le reste du groupe de quitter les lieux. Tout à coup, Marie Mallette interrompt la jeune femme et s'exclame. Mon Dieu, je saigne. John éclaire alors avec sa lampe de poche son oreille dont s'écoule un petit filet de sang qui pourrait indiquer une commotion cérébrale, induite par exemple par un brusque changement de pression atmosphérique. Il y a maintenant dans le groupe deux femmes au bord de la crise de nerfs. Il est temps de quitter les lieux. Mais pas pour longtemps. En éternel imbécile, comme il le dit lui-même, John décide de retourner seul sur la zone TNT. Il est déjà minuit. C'est en roulant au pas que John Keel, sur le qui-vive, scrute attentivement les entrées des dômes, les bosquets, les abords de la chaussée. Nous sommes sur le territoire de l'homme phalène, et à tout moment, quelque chose peut arriver. C'est sur une de ces nombreuses petites routes perdues et désertes que John va faire une étrange expérience qu'il nous relate dans son livre « La prophétie des ombres ». Alors qu'il circule entre les ruines de béton, les arbres nus et quelques marais contaminés par l'ancienne activité industrielle, John est tout à coup envahi par une peur incontrôlable. Une peur qui n'est pas stimulée par quelque chose qu'il vient de voir ou d'entendre. Non, c'est autre chose, comme une vague invisible de terreur qui vous submerge. Le journaliste accélère pour échapper au danger. Mais quel danger ? Après avoir parcouru quelques mètres, la sensation prenante et angoissante disparaît comme par magie. Stupéfait par cette expérience, John fait demi-tour et repasse au même endroit. Un pic intense de frayeur l'envahit à nouveau. Il retente l'expérience une troisième fois, en tentant, avec les arbres et autres débris sur le bord de la route, de délimiter visuellement la zone de terreur. Une fois traversé, et à nouveau en sécurité et au calme, John s'arrête. Il sort de sa voiture et remarque l'étrange silence qui règne autour de lui. Fébrile, mais déterminé, il décide à nouveau de pénétrer dans la zone de turbulence émotionnelle. Mais cette fois-ci, il le fera à pied. Le phénomène se reproduit. Il est d'ailleurs tellement intense qu'il peut déclencher en l'espace de quelques secondes une attaque de panique. À cet instant, l'enquêteur émet une hypothèse, celle d'un champ d'ondes ultrasonique, un périmètre d'ondes invisibles, impalpables, mais que le corps ressent très profondément lorsqu'il entre dans son champ d'action. Quand John Keel arrive au beau milieu de la nuit, à son motel, il est épuisé physiquement. Mais son cerveau fonctionne encore à plein régime. La machine intellectuelle, poussée par ce qu'elle vient de vivre dans ses derniers retranchements, tente d'analyser, de recouper toutes ses expériences. Le saignement d'oreilles de Miss Mallette, les yeux rougis et presque fermés de Connie Carpenter, la découverte inopinée de ce flux invisible imprégné de terreur, entraîne le reporter sur une piste qu'il ne connaît que trop bien. Celle de l'ufologie, celle des ovnis. Et pourtant, lors de son arrivée à Point Pleasant, l'adjoint Holstead lui avait assuré qu'il n'y avait pas d'extraterrestres dans la région. Il avait dit ceci. Non, ici, pas d'apparition d'ovnis. Rien de tout ça. Juste cet oiseau. Et c'est déjà bien assez.
Voyez-vous, c'est une chose de répandre ce genre de théorie, mais c'en est une autre de s'y investir.
Oui, je m'attendais à ce genre de réaction. Mais comme je vous le dis depuis le début, je ne tire aucune conclusion, je m'en tiens au fait. Je me base sur des recherches qui ont été faites depuis des millénaires. Ce qui n'est pas évident, c'est comment les rassembler.
Dans son enquête, John va très vite se trouver une partenaire de choix, la journaliste Mary Eyer, une petite femme rondelette, énergique, toujours bien habillée et coiffée. C'est une passionnée d'écriture, d'enquête et de reportage. Elle travaillera pendant 27 ans comme correspondante de Point Pleasant au Athens Messenger. Mary Eyer est née en septembre 1915 à Clipper's Mill dans le comté de Gallia. Elle décédera prématurément des suites d'une maladie à l'âge de 54 ans en février 1970. Ce que l'on peut dire, c'est que Mary Eyer est une femme ouverte d'esprit et un bourreau de travail. Elle va traiter avec assiduité les événements survenus à Point Pleasant entre 1966 et 1967.
En 13 ans de pratique, je n'ai jamais vu une chose pareille se produire. Il se passe des choses dans cette vie qui nous dépassent et ça... Je dois continuer, je dois aller au bout.
Et arrêter un peu de travailler le soir.
Lors de leur première rencontre chez les McDaniel en décembre 1966, on ne peut pas dire que le journaliste new-yorkais ait manifesté un grand enthousiasme vis-à-vis de sa collègue. Voici d'ailleurs ce qu'il dit à son sujet dans son livre « La prophétie des ombres ». Ma première impression, à la vue de Mary Eyer, fut négative, je dois dire. Chaque ville a sa mouche du coche, et je l'étiquetais ainsi. Fort heureusement, cette première impression était une simple erreur de jugement. Et très rapidement, Miss Eyer va jouer un rôle central dans la couverture des événements de Point Pleasant. Car au-delà de son professionnalisme, de sa ténacité et de son ouverture d'esprit sur l'inexpliqué, Eyer a d'autres atouts dans sa manche que ne possède pas Kiel, à savoir une très grande connaissance de la région et de ses habitants. Un savoir précieux lorsque l'on tente de percer un mystère tel que celui du Mothman.
La nuit dernière, vous avez dit qu'il s'était passé des choses étranges.
Les gens qui se mettent à voir des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer, alors ils viennent me voir.
Parce que vous êtes la police.
Parce qu'on se connaît bien.
Dans sa chambre du Blue Fountain Motel, John compulse à nouveau des articles de journaux, des témoignages, des rapports pour mieux comprendre la chronologie des événements. La toute première apparition inexpliquée remonterait au mois de mars 1966, lorsqu'une femme rapporte avoir vu un disque métallique planer au-dessus de l'école de Point Pleasant. Un objet similaire, a-t-elle dit, qui a atterri quelques jours plus tard, dans la cour derrière sa maison, et qui a été vu par ses enfants. 7 octobre 1966. John Vujovnik, un avocat de Verton, va faire une étrange rencontre sur la route qui mène à Cumberland, petite ville de l'état du Maryland. Il raconte son expérience. Je conduisais sur la route 66, entre Chester et Verton, où j'habite. Il faisait nuit quand tout à coup j'ai aperçu une lumière qui se déplaçait au-dessus d'une colline. La lumière s'est ensuite rapprochée pour se placer devant mon véhicule. Mon jeune fils avait très peur. Alors j'ai ralenti la voiture pour que nous soyons à bonne distance derrière l'objet lumineux qui brillait intensément, mais qui n'émettait aucun son. J'ai arrêté la voiture pour mieux observer l'engin qui est descendu encore plus bas. Il était environ à une hauteur de 120 mètres, je dirais. Il était tellement près qu'on aurait dit qu'il y avait comme des fenêtres sur le flanc de l'appareil. Puis l'objet a finalement disparu au loin.
À une certaine distance, ça ressemblait à une énorme masse. Une boule de lumière. Et ça volait terriblement vite vers nous. J'ai pensé une seconde que c'était un avion qui volait bien trop bas, mais ça venait vraiment droit sur nous. Mais plus ça se rapprochait, plus ça paraissait plat. Une lumière circulaire, entourée par plein de petites lumières.
Pendant ce mois d'octobre 1966, vers 20h, l'une de ces brillantes lumières longe régulièrement la rivière Ohio, traversant Point Pleasant du nord au sud. Ceux et celles qui ont pris la peine de remarquer cette apparition ont supposé qu'il s'agissait d'un avion. Début novembre, un homme d'un certain âge et nerveux est entré dans le bureau du journal de Mary Eyer. Il lui lance, sans même lui dire bonjour, « Je dois juste en parler à quelqu'un. »«
Il faut que vous m'aidiez. Je suis allé voir des médecins. Mais ils peuvent pas m'aider parce qu'ils comprennent pas. »
Mary Eyer lui demande de s'asseoir, prend de quoi noter et écoute l'histoire de cet ouvrier qui a l'air agité et perturbé. Il raconte. Le 2 novembre 1966, un collègue et moi rentrions à Point Pleasant par la route 77 après une journée de travail à Marietta dans l'Ohio. En approchant de Parkersburg, un objet oblong est apparu puis il est descendu très bas dans le ciel. J'ai arrêté la voiture pour le regarder. L'appareil s'est posé sur le sol et un homme en est sorti. Il avait l'air parfaitement normal, il avait un grand sourire, un long manteau noir, mais il y avait quelque chose de bizarre dans sa démarche. Il avançait vers nous les bras croisés et cachait ses mains sous ses aisselles, comme s'il ne voulait pas les montrer. Je n'ai pas osé sortir de ma voiture, mais j'ai baissé la vitre et on a commencé à parler. L'étranger m'a demandé qui nous étions, où nous allions et quelle heure il était. Ensuite, il est reparti vers sa navette en forme de cylindre sombre et a disparu dans le ciel. L'ouvrier semble encore sous le choc de cette rencontre.
Il y avait une telle peur dans ses yeux, je n'avais jamais vu une peur pareille.
Il ajoute qu'après cet événement, il a souffert d'insomnie. Il fait aussi des cauchemars. Ils sont tellement impressionnants qu'il s'est remis à boire.
C'est vous qui avez dessiné ça. Vous savez ce que c'est ?
Non. Non, c'est juste une image que je vois sans arrêt dans ma tête. Comme les autres dessins.
C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voyez ?
Ce n'est pas ce que je vois, c'est ce que lui, il voit. C'est impossible.
Et il n'est pas le seul à être sous le choc. Après 25 ans de journalisme, de reportages et d'interviews dans la petite ville de Point Pleasant, c'est bien la première fois que Mary Eyer se retrouve face à un récit aussi stupéfiant que déroutant. À tel point d'ailleurs qu'elle hésite à le faire paraître dans les colonnes du Athens Messenger. D'ailleurs, elle ne le fera pas, car deux jours plus tard, le fils du témoin appelle la journaliste pour lui demander avec insistance de ne pas publier cette histoire. Mary Eyer accepte, mais conserve précieusement les notes de l'entretien. Aujourd'hui, elles sont entre les mains de John Keel, et John veut en savoir plus. Il se rend directement au bureau de la journaliste sur Jackson Avenue. Le duo d'enquêteurs retrouve les coordonnées de l'ouvrier. Le téléphone sonne, on décroche. La conversation est détendue, mais l'ouvrier insiste pour que son nom et son prénom ne soient pas mentionnés dans la presse. Il a peur d'être pris pour un farfelu ou un mythomane. L'homme mentionne ensuite qu'un scientifique de l'Ohio est venu le voir chez lui pour lui demander d'oublier cette rencontre.
Je pense et je suis sûr que vous serez d'accord qu'il est de votre devoir en tant que citoyen américain de garder tout cela secret. Ne parlez à personne de cet incident.
Les choses étranges, l'interlocuteur de Miss Eyer n'arrive pas à retrouver le nom de cet homme qui est reparti dans une grosse voiture noire. C'est donc ainsi que débute à la fin de l'année 1966 l'une des plus fabuleuses vagues d'apparitions d'ovnis de l'Est américain. Au plus fort du phénomène, Mary Eyer va recevoir plus de 500 rapports d'observation d'ovnis en un seul week-end.
J'ai vu quelque chose de très impressionnant dans le ciel hier et je ne sais pas ce que c'était. En fait, je suis sûre qu'il y a au moins 50 ou 100 personnes qui ont pu le voir.
Je me souviens l'avoir vu, mais après, je me souviens plus de rien.
Dès que je me suis garée, cet objet est venu droit sur notre véhicule. C'était énorme.
Nous avons observé un phénomène inconnu ce matin à environ 1600 Zoulous. On a pu observer ce phénomène pendant 10 à 15 minutes.
Mon petit frère, il a 3 ans, il va avoir 4 ans le mois prochain. Et hier soir, il a parlé à nos parents. Mes parents l'ont suivi dehors et il a dit « L'étoile me suit, l'étoile me suit !»
Il faut l'avoir vécu pour le croire, je vous jure.
Pendant que ce 2 novembre 1966, un ouvrier et son collègue dialoguent sur le bord d'une route avec un homme qui voyage dans un cylindre opaque sur la 77, Woodrow Derenberger rentre tranquillement chez lui en empruntant lui aussi la même route. Woodrow est un grand type costaud d'une cinquantaine d'années. Il travaille comme représentant pour une compagnie d'électroménager et habite avec sa famille dans une petite ferme sur Mineral Wells, en Virginie occidentale. Le temps est pluvieux et froid à cette époque de l'année. Il fait d'ailleurs déjà nuit. Au volant de son camion, alors qu'il monte une côte en ligne droite, après Parkersburg, Woodrow remarque dans son rétroviseur qu'une voiture semble le suivre, peut-être un policier. Il décide de ralentir pour laisser la voiture le doubler. Mais lorsque le véhicule arrive à sa hauteur, Woodrow manque de faire une embardée, car la voiture n'est pas une voiture, mais un tube de verre de couleur anthracite. L'automobiliste freine tout à coup brutalement, car l'objet vient de se mettre en travers de la route. Il est là, à 3 mètres devant lui. Woodrow panique lorsqu'il aperçoit une personne sortir par une porte qui se trouve sur le flanc du cylindre. L'homme fait environ 1,80 m. Il a 35 ou 40 ans. Il est beau et soigné. Il a les cheveux longs et bruns, coiffés en arrière. Sa peau est très bronzée. Ses bras sont croisés et ses mains cachées sous ses aisselles. Il porte un long manteau noir et dessous, il y a un vêtement en tissu verdâtre et brillant qui lui donne un aspect métallisé. Une voix comme télépathique lui intime l'ordre de baisser la vitre de son camion. C'est alors qu'une conversation, une étrange conversation, s'engage. L'homme aux cheveux longs lui dit de ne pas avoir peur, qu'il s'appelle Cold et qu'il dort, respire et saigne comme tout le monde. Cold désigne ensuite les lumières au loin, celles de Parkersburg, et demande de quoi il s'agit. Woodrow explique que c'est une ville. Son interlocuteur réplique que dans son monde, on appelle de tels endroits des rassemblements. Cold, avant de repartir dans son engin, indique qu'il va revenir à une date ultérieure. En arrivant chez lui, très perturbé et épuisé, le représentant explique à sa femme ce qu'il vient de vivre.
Il paraissait humain. Il y avait simplement quelque chose d'anormal chez lui. C'est alors que j'ai entendu la voix, la même voix que j'avais entendue 2 nuits plus tôt. Il a dit « N'ayez pas peur. Mon nom, apprenez-le, est Ingrid Cold. Attendez mon prochain passage. Je reviendrai. Je vous verrai en temps voulu. »
Horrifiée, elle supplie son mari d'appeler immédiatement la police. Le 3 novembre 1966 au matin, il est convoqué par la police municipale et la police d'État pour raconter son expérience. La presse locale s'empare de l'affaire. On apprend ainsi que la rencontre s'est déroulée à 19h25 sur la route 77, près de l'échangeur avec la route 47. Et chose très surprenante, la discussion s'est faite par télépathie. Woodrow explique que l'homme le regardait, mais ne lui parlait pas. Il entendait sa voix uniquement dans sa tête. Woodrow précise aussi que pendant cette discussion, il y avait de la circulation sur la route et que de nombreuses voitures ont déboîté pour éviter l'engin. Un détail qui a son importance, car très vite, suite au témoignage de Woodrow, de nombreux habitants de la région vont à leur tour se mettre à parler, dont Madame Franklin Huggins. Elle a vu, elle aussi, ce 2 novembre au soir, l'objet planer au-dessus de la route. En quelques jours, l'extraordinaire et inexplicable histoire de Woodrow Derenberger fait le tour des radios et des télévisions locales. Invité sur le plateau du présentateur Glenn Wilson de WTAP-TV and Radio, voici ce que dit Woodrow. « Je n'ai jamais cru aux soucoupes volantes auparavant. J'en ai entendu parler plusieurs fois. J'ai même lu dans le journal des choses sur les objets volants. Mais honnêtement, je n'y ai jamais cru. »
Jusqu'à présent, l'armée de l'air n'a toujours pas confirmé avoir procédé à des essais militaires dans la région, ce qui laisse bon nombre d'habitants perplexes quant à ces mystérieuses lumières.
Il semblerait que l'armée n'ait pas d'explication. Si c'est vrai, eh bien, qu'est-ce que c'était alors?
Est-il exact que le gouvernement a recueilli des objets volants
non identifiés? Désolée, madame, pas de journaliste à l'intérieur.
Les sources sont à l'étude.
Nous sommes avec Sarah Johnson, qui s'occupe du journal UFO Times. Sarah, pourquoi êtes-vous en train de manifester ici?
C'est un avertissement que nous voulons lancer à tous les habitants de la planète. Nous savons que le gouvernement cache l'existence de vaisseaux extraterrestres. D'après la loi de la libre information, certains événements ont été dissimulés au grand public.
Point Pleasant, en ce mois de novembre 1966, n'est plus du tout un petit point plaisant, mais l'épicentre d'un chaos humain et médiatique impressionnant. Des curieux restent pendant des heures devant la maison des Derenberger, espérant pouvoir photographier ou capturer l'être venu d'ailleurs. À la tombée de la nuit, on peut aussi observer des voitures en file indienne qui se dirigent vers la zone TNT, dans le but de pourchasser une grande chauve-souris ailée qui terrorise toute la vallée. D'autres préfèrent se donner rendez-vous sur les collines alentours, en espérant pouvoir pister des apparitions lumineuses. Et le spectacle sera grandiose. Pour Halloween, des soucoupes volantes sont apparues dans le ciel, et elles reviendront en de multiples occasions. Les observations sont tellement nombreuses qu'il est impossible de toutes les relater. Mais n'allez pas croire que tous ces phénomènes, cette effervescence, est du goût de tout le monde. Des familles entières sont traumatisées et se barricadent chez elles à la nuit tombée. La paranoïa et la peur s'immiscent dans les relations et les discussions des habitants de la région. Quant aux églises, elles sont prises d'assaut, car toutes ces manifestations annoncent que la fin des temps est proche. Entre 1966 et 1967, plus d'une centaine de personnes vont apercevoir l'étrange oiseau de mauvais augure. Sa description se fait plus précise. Il est gris, son plumage, plus grand qu'un homme, avec de grands yeux rouges hypnotiques. Ceux et celles qui vont le rencontrer vont vivre par la suite toute une série d'événements bizarres et inexplicables. Comme par exemple Connie Carpenter, qui a rencontré l'apparition ailée sur la route 62 en novembre 1966. Elle va entendre toute une série de bips sonores derrière la fenêtre de sa chambre.
Allô ?
Il y a aussi dans toute la région d'étranges problèmes de téléphone. Une jeune femme de Point Pleasant raconte à John Keel que tous les soirs à 17h précises, son téléphone sonne. Quand elle décroche, c'est un homme, toujours le même au bout du fil. Il parle très vite, dans une langue inconnue.
Je ne sais pas qui fait ça, mais je trouve pas ça drôle. Ah, c'est pas croyable, tous ces coups de téléphone anonymes. On en avait 3 ou 4 par jour, et maintenant, on en a même la nuit.
Un autre témoignage va retenir l'attention de John, une autre habitante de la ville qui reçoit régulièrement des appels. Lorsqu'elle décroche, elle entend une voix métallique qui parle un langage incompréhensible. En mars 1967, la moitié des communications radio et téléphoniques sont parasitées, brouillées par des bruits de friture ou des bips incessants. Comme l'explique John Keel dans son livre, c'est comme si tout Point Pleasant se trouvait noyé dans la friture. On reçoit donc de mystérieux appels dans la vallée, mais aussi des visites pour le moins insolites.
Madame Myers, on nous a dit que vous avez vu une sorte de, comment dire, d'entité, il y a quelques jours. Et que vous l'avez signalé aux autorités.
Oui, c'est ça. Et quand j'ai regardé dans ses yeux, il m'a montré la fin de toutes choses.
D'accord, Madame Myers. Merci de nous avoir reçus.
Ils m'ont cru, les autres, ceux qui sont venus me voir avant vous.
Quels autres?
Les hommes au chapeau.
Au début de l'année 1967, Mrs. Heyer travaille tard dans son bureau du centre-ville. En cette période éprouvante et intense, l'enquêtrice reçoit plus de rapports d'observation d'OVNI qu'elle ne peut en publier. Tout à coup, un homme de petite taille, à peine 1,50 m, fait irruption dans sa pièce. Il semble perdu et demande le chemin pour se rendre à Welch. Avant de lui répondre, la journaliste prend le temps de bien l'observer. Et il y a des détails tout à fait stupéfiants qu'elle n'oubliera jamais. Nous sommes en plein hiver. La température est dehors d'à peine 10 degrés. Mais l'étranger porte seulement une chemise à manches courtes et un pantalon très léger. Il a des chaussures tout à fait singulières avec d'épaisses semelles. Quant à ses yeux, ils sont comme hypnotiques. Le regard est fixe, droit, alors que le petit homme s'exprime d'une manière hésitante, presque confuse. Bref, il y a comme un décalage entre le son et l'image. Son récit de panne de camion est décousu et peu cohérent, à tel point que Mary sent l'angoisse l'étreindre. Et plus l'homme parle, plus il se rapproche de son interlocutrice, comme s'il cherchait à sonder son âme. C'est un coup de téléphone à la rédaction du journal qui va mettre fin à cette conversation quasi surréaliste. L'homme en profite pour courir vers la porte et s'enfuir dans la nuit. Cette visite inhabituelle n'est que la première du genre. Le 8 mai, vers 23h30, au moment où Mary Heyer ouvre la porte de sa maison, une grosse voiture noire freine brusquement devant chez elle. Un homme sort avec un appareil photo à la main et la vise. Le flash est tellement puissant que la journaliste est pendant quelques secondes complètement aveuglée. 22 février 1967. La jeune Connie Carpenter, qui avait vu l'homme Fallen quelques mois auparavant, se rend à pied à son école. Il est 8h15 du matin quand tout à coup une grosse Buick noire de 1949 s'arrête à côté de la jeune femme. Le conducteur baisse la vitre. C'est un homme soigné de 25 ans. Chose étrange, son visage est rouge comme s'il avait pris un coup de soleil, alors que nous sommes en plein hiver. Il lui fait signe de venir vers la voiture. Elle s'exécute. Lorsqu'elle arrive à la hauteur de la portière, l'homme saisit fermement son bras et lui intime l'ordre de monter. Confuse et apeurée, Connie se débat et arrache une partie de son chemisier. Elle arrive à se dégager et court se réfugier dans sa maison. Dans l'après-midi, vers 15h, on frappe à la porte. L'étudiante terrorisée ne répond pas et attend cachée dans un coin de sa chambre, derrière son lit, le retour de son amie. Le soir même, elle retrouvera un mot qu'un inconnu a glissé sous sa porte. Il est écrit en lettres capitales « Attention jeune fille, je peux encore t'avoir ». Le contacté Woodrow Derenberger va lui aussi recevoir la visite de ce que John Keel appelle « les hommes en noir ».
Quel est le problème ?
Eh bien voilà, ma famille et moi avons vu quelque chose dans le ciel il y a quelques jours. Et quand on en a parlé, on a été menacés par ces types bizarres qui se réclament du gouvernement.
Alors appelez la police ?
On a essayé, ils nous prennent pour des fous. Notre maison a été mise à sac et ils veulent tous nous tuer.
À quoi ressemblent ces gars ?
Ils sont bizarres. Costume noir, chapeau noir, lunettes de soleil, ils sont étranges. Écoutez, ma femme et mon fils sont morts de peur, j'ai réussi à les calmer, mais j'ai besoin de vous.
Un jour, raconte-t-il au journaliste, je travaillais dans mon magasin quand deux hommes petits, costauds, avec une peau de couleur olivâtre et vêtus de costumes noirs sont venus vers moi. Sans me saluer, ils m'ont dit d'un ton monocorde « Nous pensons que vous savez qui nous sommes. Nous vous conseillons d'oublier tout ce que vous avez vu. »
Si vous mentionnez cela à qui que ce soit, nous reviendrons.
À chaque nouvelle rencontre, les hommes en noir semblent vouloir intimider ou effrayer les témoins d'objets volants non identifiés.
Nous avons un dossier sur tous les témoins qui ont vu des ovnis. Ces fameux hommes en noir les menacent tous les jours.
À 100 km, au nord de Point Pleasant, un jeune homme de l'Ohio, Ben, voit sur le trajet qui mène à sa maison un engin survoler une usine chimique. Curieux, il décide de faire des appels de phare en direction de l'apparition pour peut-être pouvoir entrer en communication avec elle. Mais l'expérience s'arrête net. Le moteur de la voiture vient soudainement de caler et tout le système électrique de griller. Quelques jours plus tard, le jeune homme remonte à pied la rue principale de Parkersburg. quand il croise deux hommes en noir, deux hommes à l'apparence assez inquiétante pour qu'il change immédiatement de trottoir.
Vous ne seriez pas paranoïaque?
Ce n'est pas de la paranoïa quand ces gens-là sont vraiment après vous.
Linda Scarberry, qui avait vu le Mothman le 15 novembre 1966 dans la zone TNT, a elle aussi été prise en chasse par trois hommes en noir dans une voiture. Voici son témoignage. Ils portaient des costumes noirs, des chapeaux noirs et des lunettes de soleil. Ils conduisaient une Cadillac, je pense. Ils ressemblaient à des êtres humains, mais leur peau était quelque peu transparente et leurs doigts semblaient plus longs que la normale.
Qui êtes-vous ?
Nous sommes du gouvernement, madame. Ce que vous avez vu ce soir ne s'est jamais produit. Jamais.
Quoi ?
Vous ne répéterez à personne ce que vous avez vu. Comme je vous l'ai dit, ça ne s'est jamais produit.
Des ovnis, un homme chauve-souris, des men in black, des brouillages hertziens, des bips sonores. Cette accumulation d'événements inexpliqués a de quoi faire sombrer n'importe quel être humain dans la paranoïa ou la folie. Mais ce n'est pas tout. S'ajoutent à cela des manifestations de poltergeist. Le jeune Ben, sur les conseils de Mary Heyer, contacte un jour John Keel. Il a des choses à lui raconter. Et il lui explique que depuis la vision de l'engin volant au-dessus de l'usine chimique, il se passe des choses étranges chez lui. Le téléphone sonne sans arrêt. Quand il décroche, on entend dans le combiné des séries de bips.
Vous avez fait vérifier la ligne?
J'ai même fait changer le numéro. Mais avant même que j'aie eu l'occasion de le donner à qui que ce soit, ça a de nouveau sonné.
Mais encore plus effrayant, des tiroirs s'ouvrent tout seuls. Des objets disparaissent. Un jour, la femme de Ben remarque qu'une énorme armoire s'est déportée toute seule pour se placer juste devant une fenêtre. John tentera de la déplacer pour voir si un homme peut la faire bouger. Mais il se rend vite à l'évidence, il est strictement impossible de la manipuler. Une autre famille a besoin d'aide. C'est la famille Lily. James, sa femme et ses enfants habitent sur la route de Camp Conley, au sud de la zone TNT. Outre les appels bizarres d'une personne avec une voix métallique, Madame Lily raconte que, sans aucune logique, au beau milieu de la nuit, les portes des placards de la cuisine se mettent à claquer, poussées par une force mystérieuse et invisible.
Je l'ai vu de mes propres yeux. La commode a bougé d'un coup, elle a traversé la chambre.
Jackie Lily remarque aussi que les voitures qui se dirigent le soir vers la zone TNT pour apercevoir des lumières dans le ciel, ou encore l'homme phalène, calent brusquement lorsqu'elles arrivent à la hauteur de leur maison. Là aussi, sans aucune explication.
Je vous en prie, entrez.
John Keel décide de se rendre sur place pour enquêter. Il est accueilli chaleureusement par James et sa femme Jackie, qui lui raconte qu'elle est réveillée la nuit par des bruits métalliques, comme si une casserole tombait par terre, mais aussi par les pleurs d'un bébé. Dans un coin de la pièce, la jeune Linda, 16 ans, assiste silencieuse à la conversation. La fille Lily semble mal à l'aise lorsque sa mère lui demande de raconter ce qu'elle appelle un cauchemar. Linda a le regard baissé, puis après un moment d'hésitation, elle se lance dans une explication. Voici ce qu'elle dit à John. Une nuit, j'ai été réveillée par une étrange présence. Un homme très grand et très fort qui marchait dans ma chambre sans faire de bruit. Lorsqu'il s'est arrêté au-dessus de moi, j'ai crié de toutes mes forces et je me suis enfui dans la chambre de mes parents. Depuis cette terreur nocturne, Linda ne veut plus dormir seule et ses traits cernés trahissent le traumatisme qu'elle vient de subir. Au cours de leur enquête, John et Mary remarquent qu'à chaque fois qu'une personne ou un groupe de personnes se retrouve en présence d'un ovni ou de l'homme phalène, il se produit par la suite dans leur vie tout un tas d'événements mystérieux qui plonge les expérienceurs dans un état de grande souffrance psychologique. Certains reçoivent même des messages prophétiques. Cela passe par des rêves, des visions ou bien encore des messages télépathiques. 2 novembre 1967. Virginia Thomas, qui habite près de la zone TNT, est dans sa cuisine lorsqu'elle entend un puissant bruit métallique qu'elle situe aux abords de sa propriété. Elle sort de sa maison pour voir ce qui vient de se passer. Quand subitement elle aperçoit une ombre plus grande qu'un homme courir dans l'herbe. La chose se déplace à une vitesse folle, traverse les champs puis disparaît derrière les arbres. Elle contacte de suite Mary Ayer pour lui raconter son histoire de monstre gris. Et elle ajoute « Depuis cette apparition, je suis en proie à de terribles cauchemars. Je vois des gens bizarres autour du fleuve. C'est comme une invasion. Ils arrivent dans des camions et investissent la zone TNT. » Le 3 novembre 1967, John écrit à Mary Heyer et lui dit ceci. « J'ai de bonnes raisons de croire qu'il pourrait bientôt se produire une catastrophe dans la région de Point Pleasant. » Quelques jours plus tard, John, qui était en Caroline du Nord pour enquêter sur des atterrissages d'OVNI, est de retour à Point Pleasant. Et c'est Mary qui vient le chercher en voiture à l'aéroport de Charleston. Elle raconte à John qu'elle a été passablement interloquée par sa lettre du 3 novembre, car elle venait de faire, elle aussi, un cauchemar pour le moins inquiétant. Elle avait vu plein de gens se noyer dans le fleuve Ohio. Il y avait des corps partout qui flottaient à la surface de l'eau.
J'ai fait le même rêve la nuit dernière. À cette différence près que ce n'était pas un rêve, mais un souvenir.
Dis-moi que c'était un rêve.
Alors pourquoi rêvons-nous la même chose ?
Effet d'autosuggestion. Surmenage intellectuel suite aux nombreuses enquêtes rédigées sur toutes ces affaires extraordinaires, Mary et John sont dans le doute et le questionnement. Avec cette intuition persistante qu'une menace se rapproche, que quelque chose va se passer.
J'ai toujours cette impression qu'on court un danger.
En cette période d'approche des fêtes de fin d'année 1967, les apparitions du Mothman et des ovnis baissent soudainement en intensité. La ville semble avoir retrouvé un semblant de calme et de sérénité. C'est à la fois une bonne nouvelle, car Mary peut enfin souffler et s'occuper d'autres sujets d'actualité. Mais c'est aussi inquiétant, car c'est un peu comme si vous étiez dans l'œil du cyclone. Ce petit espace circulaire paisible, alors qu'à l'horizon tout autour de vous, on peut apercevoir une forte zone de turbulence qui se rapproche. Qui se rapproche lentement, mais sûrement. En ce début du mois de décembre 1967, John est retourné sur New York. À part un pressentiment désagréable et quelques apparitions de lumière dans la nuit, la récolte de nouvelles informations avait été maigre ces derniers temps sur Point Pleasant. Nous sommes le 15 décembre 1967, à 17h, lorsque notre enquêteur allume la télévision pour regarder en direct l'illumination du sapin de Noël de la Maison Blanche et le traditionnel discours du président. Quand tout à coup, à 17h45, le programme est interrompu pour un flash spécial. On vient d'apprendre qu'un pont vient de s'effondrer près de la ville de Gallipolis, en pleine heure de pointe. Le bulletin se termine par « Nous reviendrons vous en parler dès que nous en saurons plus sur le sujet. » John Keel s'écroule sur son canapé. La prophétie des ombres vient de se réaliser. Le Silver Bridge, ainsi nommé en raison de sa peinture brillante en aluminium, est un pont suspendu à deux voies construit en 1928 par la American Bridge Company. Il relie Point Pleasant à Gallipolis. De par sa conception unique, le Silver Bridge était, lors de son ouverture, une attraction populaire et une icône de la technologie moderne. 10 000 personnes, venues de toute la région, était présente le 30 mai 1928 pour assister à son inauguration.
Dites, vous savez ce qui se passe là-bas ?
Il y a un problème avec le feu rouge.
En ce début d'après-midi du 15 décembre 1967, le feu tricolore côté Ohio ne fonctionne pas bien. Il reste bloqué sur le vert, en pleine heure de pointe. Très vite, le Silver Bridge devient un goulot d'étranglement pour les voitures et les camions qui roulent au pas. En quelques minutes, l'édifice est saturé de véhicules sur ses deux voies. Frank Wamsley, un jeune conducteur de 28 ans, est bloqué avec son camion sur le pont. Un pont qui vacille légèrement, comme à son habitude lorsqu'il y a des bouchons. À 17h04 précisément, c'est tout l'édifice qui se met à bouger de manière convulsive. L'acier grince, les 680 mètres de route se déplacent de droite à gauche. Quand tout à coup, celle-ci se morcelle en plusieurs endroits. Des câbles viennent de lâcher, provoquant une impressionnante détonation et des étincelles au-dessus des voitures.
Partez du pont ! Éloignez-vous du pont !
En moins de 20 secondes, le pont cède de tous les côtés. Le sol se dérobe sous les voitures dont les pneus crissent. Certaines sont déjà en équilibre précaire au-dessus du vide. Juste en dessous, des eaux sombres prêtes à avaler des familles entières. Le bruit de l'acier qui se tord, puis se rompt, est assourdissant. Les cris des passagers le sont tout autant. En centre-ville, les lumières baissent subitement d'intensité. L'épouvantable vacarme provoqué par l'effondrement du pont ressemble à celui de l'explosion d'une bombe qui fait trembler vitres et objets. Trente et un véhicules et 64 personnes font une chute vertigineuse de 25 mètres dans une eau à 6 degrés. Certains auront la chance de pouvoir s'extirper à temps de leur cercueil métallique, avant qu'ils ne soient emportés au fond des eaux ou écrasés par les débris du pont. D'autres vont y perdre la vie. 46 personnes pour être exactes, dont une petite fille de 17 mois. Celle d'Howard Boggs, qui avait à l'époque des faits seulement 24 ans. Dans cette tragédie, il va perdre aussi sa femme. Deux corps ne furent jamais retrouvés. Celui de la petite Catherine Lucie, 10 ans, et celle de Maxine Turner, qui s'en est allée de l'autre côté, avec son mari Victor, qui était au volant.
Ils ont terminé les recherches.
36. Il semble qu'il y ait 36 morts.
Mon Dieu.
22 des victimes sont originaires de l'Ohio. 19 de Virginie-Occidentale et 5 de Caroline du Nord et de Virginie. On compte, parmi les disparus, un certain nombre de témoins d'OVNI. À présent, éclairés par les lampes torches des secours, il ne reste plus du Silver Bridge que deux piles de béton solitaires, un enchevêtrement chaotique de câbles et de poutres métalliques et des lignes électriques cassées accrochées aux arbres. Cette nuit-là, Mary Heyer est à son bureau. Entre deux sanglots, elle écrit un article sur le drame, tout en répondant au téléphone qui ne cesse de sonner. Au bout du fil, des confrères qui la pressent de questions sur ce qui vient de se passer. Dehors, un balai incessant d'ambulances et de voitures de police. Et puis des flashs, encore et encore, d'appareils photo. Le vendeur, Ben Sidar, a traversé le Silver Bridge environ 15 minutes avant l'effondrement. Il témoigne face caméra. J'étais inquiet à propos de ce pont chaque fois que je le traversais. Si vous êtes coincé au milieu du pont, vous pouvez ressentir ses ondulations. Les premiers inspecteurs et ingénieurs arrivés sur les lieux diagnostiquent une usure du métal et un défaut de conception. L'analyse médico-légale a pu retracer le problème jusqu'à une petite fissure sous contrainte d'environ 3 mm de profondeur. Oui, seulement 3 mm. Le pont Hiram Carpenter, qui relie les communautés de Newport et de Sainte Marie, est fermé dans la foulée. Il est de la même conception que le Silver Bridge. Il sera entièrement démantelé en 1971. À ce jour, la tragédie du Silver Bridge reste la pire catastrophe de pont de l'histoire des États-Unis. Quelques mois plus tard, les autorités décident de construire le Silver Memorial Bridge. Ce nouveau pont enjambe la rivière Ohio entre Gallipolis et Anderson. Son emplacement est situé un peu plus au sud. Il est inauguré le 15 décembre 1969, soit 2 ans, jour pour jour, après la tragédie du premier Silver Bridge. Le pont Hiram Carpenter sera remplacé par le High Carpenter Memorial Bridge, dont la construction s'achève en 1977. Là où se trouvait l'entrée du pont, côté Gallipolis, il existe aujourd'hui un mémorial entretenu par l'Ohio Department of Transportation. On y trouve une plaque commémorative, mais aussi quelques vestiges du Silver Bridge. Un autre débris du pont se trouve sur une aire de repos, à environ 2 km au nord du site. Sur l'autre rive, côté Virginie occidentale, l'artiste Jesse Corliss a réalisé là où se trouvait autrefois l'entrée du pont, une grande fresque murale, donnant l'impression que l'édifice est toujours présent. On peut voir au premier plan, traversant le pont argenté, une voiture verte. Et sur l'autre voie, dans le lointain, une seconde voiture noire. Cette création, au premier regard anodine, est pleine de symboles. Le véhicule, qui part en direction de Gallipolis, est une vieille berline Ford de 1928. Elle représente l'année d'inauguration du pont. Le pick-up GMC vert est lui de 1967 et il représente l'année de l'effondrement du pont. Un œil attentif remarquera qu'il y a aussi 46 oies dans le ciel survolant le fleuve Ohio. Elles évoquent les 46 victimes de la tragédie. Juste sur la droite de l'œuvre se trouve une plaque commémorative. Chaque année, le 15 décembre, les habitants et le maire de la ville de Point Pleasant organisent une cérémonie du souvenir avec un discours et quelques festivités, dont des chants de Noël et une prière. Depuis 2015, se trouve aussi une plaque commémorative en bronze sur la 6e rue. Il est écrit dessus « En mémoire des 46 âmes qui ont perdu la vie le 15 décembre 1967 ». Nous ressentons toujours un sentiment de crainte et de tristesse quand nous entendons le nom de Silver Bridge. Cette plaque du souvenir a été inaugurée par Caroline Harris, dont la sœur a été un témoin oculaire du Mothman dans la zone TNT. Mais surtout, Caroline Harris a perdu son fils et son mari dans la tragédie du Silver Bridge. Lorsqu'on lui a demandé si elle croyait en l'existence du Mothman, Caroline a répondu « Oui ». Et j'y crois énormément. Il y a eu trop de monde, trop de rencontres similaires. Et des rencontres, il y en aura encore. Même si l'entité surnaturelle se fera très discrète après l'effondrement du Silver Bridge, elle sera à nouveau signalée dans la région quelques décennies plus tard. En novembre 2016, un homme qui n'a pas souhaité révéler son identité a envoyé à la télévision locale WCHS-TV quelques clichés sur lesquels on peut distinctement voir une créature ailée. Cet homme était sur la route nationale numéro 2 qui longe le fleuve Ohio de Parkersburg à Wheeling lorsqu'il a vu un animal passer d'un arbre à l'autre. Il s'est arrêté sur le bas-côté pour prendre quelques clichés avec son smartphone. On peut voir en zoomant un monstre ailé avec des jambes assez longues et fines. Les extrémités sont étrangement recourbées vers l'intérieur, comme si les pieds pouvaient se regarder. On aperçoit aussi une tête entre les deux grandes ailes déployées. Mais la photo est de trop mauvaise qualité pour découvrir d'autres détails physiques intéressants. Le témoin précise que ces photos n'ont pas été retouchées et qu'il ne connaissait pas la légende du Mothman, car il est nouveau dans la région.
J'ai rencontré une femme dont la situation était similaire à la vôtre. Elle avait vécu votre expérience et avait pris une série de photos, de simples photos. Elle a contacté les autorités et immédiatement poursuivie par le MIB. Ils voulaient la faire taire et récupérer toutes ces photos.
Concernant les Men in Black, ils seront de retour quelques jours après l'effondrement du pont de Point Pleasant. Et ils souhaitent voir une personne en particulier. Une personne qui connaît bien le dossier ufologique de la région. Une certaine Mary Heyer. 22 décembre 1967. Une semaine après la catastrophe, deux hommes font irruption dans le bureau de la journaliste. Ils portent des pardessus noirs, ils ont le teint mat et des traits orientaux. Ils ne sont pas intéressés par l'effondrement du pont, mais souhaitent consulter les rapports d'OVNI dans la région que Mary a en sa possession. La journaliste remet aux deux hommes un dossier contenant des coupures de presse, mais ils ne prennent pas la peine de le consulter. Par contre, ils ont une question pour la journaliste. Que feriez-vous, madame, si on vous donnait l'ordre de cesser d'écrire sur les ovnis ? Mary Heyer, ayant un caractère bien trempé, ne se laisse pas impressionner et répond que quoi qu'il se passe, elle continuerait. Mary retourne à son bureau et les deux hommes disparaissent.
Allô ?
Écoutez, il y a un homme qui m'a appelé du même numéro. Il a dit s'appeler John.
Il n'y a aucun John ici.
Oui, je sais.
Pourquoi est-ce qu'il vous a appelé, pour quelle raison ?
Un peu plus tard, dans l'après-midi, un autre homme étrange entre dans le bureau de Mrs. Heyer. L'homme se présente sous le nom de Jack Brown. Il fait environ 1m70. Il a des yeux noirs perçants, des cheveux noirs et de longs doigts. Son teint est encore plus sombre que celui des deux précédents visiteurs. Et lui aussi a des traits orientaux. Il porte un costume noir mal ajusté, avec une cravate étrangement nouée. Jack prétend être un ufologue et pose de nouveau la même question à la journaliste. Que feriez-vous si on vous intimait l'ordre de ne plus publier d'articles sur les apparitions d'OVNI ? Mary lui demande s'il est avec les deux hommes venus lui parler un peu plus tôt dans la journée, ce à quoi il répond par la négative. L'homme pose ensuite quelques questions sur l'enquêteur John Keel. Il veut savoir où il se trouve et que Mary l'emmène sur un site d'observation. Tout en raccompagnant avec insistance l'individu à la porte, Mary lui dit que c'est impossible, puis ajoute qu'il devrait faire sa propre enquête en ville. Jack Brown s'est ensuite rendu au domicile de plusieurs témoins, notamment les Scarberry et les Mallettes, ainsi que chez Connie Carpenter. Il prétend à ses interlocuteurs être un ami de Mary Heyer. Il a avec lui un magnétophone, mais ne semble pas savoir comment s'en servir. Encore plus troublant, ces questions ne portent pas sur le Mothman ou les apparitions d'OVNI, mais sur Mary Heyer et John Keel. Connie Carpenter se souvient très bien de son regard noir et presque hypnotique. Sa présence mettait tout le monde mal à l'aise. Après ces quelques visites, Jack Brown disparut dans la nuit pour ne plus jamais revenir à Point Pleasant.
Quand vous avez peur de quelque chose, c'est qu'il y a une raison pour cela. Il y a une barrière que vous devez surmonter. Une leçon à apprendre. Au lieu de fuir la difficulté, affrontez-la. N'ayez pas peur de votre peur. Utilisez-la comme un instrument et ne soyez plus jamais la même.
Point Pleasant, une petite ville perdue aux confins de la Virginie occidentale, est marquée à tout jamais par ces événements inexpliqués et l'effondrement du Silver Bridge. Les habitants gardent précieusement de cette époque troublante et troublée quelques souvenirs, des pièces à conviction, des articles de presse et d'authentiques témoignages que l'on peut consulter au Mothman Museum qui se trouve sur Main Street. Inauguré en 2006, celui-ci propose une section consacrée à Mary Heyer et John Keel, une autre au Men in Black et une dernière à l'effondrement du pont le 15 décembre 1967. Le musée est ouvert 7 jours sur 7. L'entrée pour un adulte est de 4,5 $. Pour préparer votre visite, mothmanmuseum.com. Une fois dehors, une salutation à la grande statue argentée du Mothman s'impose avec la traditionnelle photo souvenir. Une statue aux yeux rouges et aux ailes déployées prise d'assaut chaque année pendant le Mothman Festival. La 19e édition aura lieu les 19 et 20 septembre 2020. L'événement attire chaque année depuis sa création en 2002 plus de 10 000 personnes, faisant ainsi de l'homme phalène une icône régionale. Au programme, un concours de cosplay, des conférences, des rencontres avec des youtubeurs et des podcasteurs traitant du sujet lié au paranormal et à l'ufologie. Pour 20 $, on peut aussi s'offrir une visite guidée de la redoutable zone TNT. Chaque visite dure un peu plus d'une heure, et pour les plus téméraires, il existe même une visite de nuit des bunkers abandonnés. Il est déconseillé de s'aventurer seul dans ce secteur instable et pollué. En mai 2010, 9 kilos de poudre à canon ont provoqué l'explosion d'un dôme, les portes en acier ont été éjectées et le plafond fait de béton s'est soulevé puis effondré. Des barils vides et des boîtes de rangement métalliques ont été projetées dans les airs. Heureusement, il n'y a pas eu de morts ni de blessés.
Nuit blanche, couleur 3.
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'humanoïde ailé, explorer en détail toutes ces apparitions inexpliquées, éprouver un panel encore plus large d'émotions, voici quelques références qui pourraient vous intéresser. On commence par le best-seller « La prophétie des ombres » de John Keel, un livre disponible en français avec une préface de Pierre Lagrange, chercheur, sociologue et enseignant à l'Université de Lille. Pierre Lagrange s'intéresse depuis de nombreuses années au phénomène OVNI. La prophétie des ombres a aussi été portée à l'écran par le réalisateur Mark Pellington en 2002. Son long métrage, intitulé tout simplement La prophétie des ombres, raconte le récit d'un journaliste au Washington Post, John Klein, interprété par Richard Gere. John vient de perdre sa femme. Il retrouve par hasard des dessins qu'elle avait faits et représentant d'étranges silhouettes inquiétantes. Deux ans plus tard, alors qu'il doit se rendre à Richmond, il se perd sur la route et se retrouve en panne à Point Pleasant. Rapidement, il apprend via une policière du nom de Connie que des faits insolites se produisent dans la région. John décide de rester pour enquêter. De nombreux phénomènes inexpliqués vont se produire. Des voix étranges au téléphone, une apparition de sa défunte femme pendant la nuit. Et puis il y a cette effroyable prophétie annonçant une catastrophe imminente. Ce thriller psychologique et fantastique se termine par une scène impressionnante, celle de l'effondrement du pont le Silver Bridge. Très réaliste, cette séquence qui vous prend aux tripes tranche radicalement avec le reste de l'histoire, certes oppressante, mais qui manque sérieusement de dynamisme. Le réalisateur prend beaucoup de liberté avec le récit et les témoignages du livre de John Keel. La créature du Mothman est plus évoquée qu'il n'est montré. Plus intéressant, en bonus sur la version DVD, le documentaire de 45 minutes à la recherche du Mothman. Uniquement disponible en anglais, The Silver Bridge est un livre de l'enquêteur et ufologue Gray Parker, écrit en 1970. Il est le premier livre jamais écrit sur le Mothman. L'ouvrage a été réédité en 2008 aux éditions Booksurge Publishing. Un nouveau documentaire sur le Mothman est en préparation. Il a pu voir le jour grâce au financement participatif. Son nom, The Mothman Legacy. Il sera d'ailleurs présenté pour la première fois au public sur grand écran au Mothman Festival de Point Pleasant le 18 septembre 2020, puis proposé dans la foulée en VOD, DVD et Blu-ray.
Nuit blanche, couleur 3.
Une créature à l'aspect hideux. Des yeux qui à la fois vous hypnotisent et vous terrorisent. Mais aussi un monstre qui n'attaque pas les gens, voire même qui les prévient d'un danger imminent. Le Mothman est un cryptide vraiment à part. Un prophète ailé auquel les habitants de Point Pleasant sont encore aujourd'hui très attachés. Si à la fin des années 60, l'homme phalène était effrayant, de nos jours, il est plutôt fascinant, mais surtout une attraction touristique de la région qui fait vivre bon nombre de petits commerçants. Laissons le mot de la fin à l'écrivain John Keel, pour qui les créatures mystérieuses prouvent l'existence des dieux des temps anciens. Les Men in Black, les ovnis et même l'homme phalène sont des versions modernes des démons et diables d'autrefois. Notre papillon de nuit blanche, est à présent sur le point de s'envoler. À la réalisation, Valère Veilla, au micro, Michael Marquet. Nuit blanche, c'est sur votre application de podcast préférée. C'est aussi sur Deezer, Spotify et sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur SoundCloud, sur l'application de Couleur 3 et sur rts.ch, rubrique radio podcast originaux. Comme un cri dans la nuit, un grand merci pour votre témérité, votre fidélité, vos étoiles et vos commentaires sur Apple Podcast. Pour les plaintes concernant vos insomnies ou vos cauchemars à répétition, nuitblanche@rts.ch. Prochaine nuit blanche, prochaine pleine lune. Le mardi 7 avril à 18h, nous ouvrirons une petite boîte en bois avec beaucoup de précautions, car elle contient de puissants démons.
J'ai ouvert la boîte et il en est sorti un courant d'air froid. C'était indescriptible. Le mal à l'état pur.
À bientôt pour une nouvelle nuit blanche. Une nuit blanche à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais.